بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Chers frères et sœurs, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous réunir ce soir pour ce programme en ligne concernant des textes et des versets du Coran sur la mort. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la dernière intervention qu'on avait faite sur ce sujet. Ça concernait la vie des pieux prédécesseurs concernant l'homme le plus chanceux au monde. Et pour eux, l'homme le plus chanceux, ce n'était pas celui qui venait de gagner 1 million d'euros ou qui venait d'hériter de biens ou de choses exceptionnelles ou l'homme qui venait de se marier ou la jeune femme qui venait de se marier et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie des biens de ce monde, sans le moindre doute, des biens licites de ce dunya. Mais pour ces pieux prédécesseurs, l'homme heureux, c'est cet homme qui a vécu dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, qui a passé sa vie fi ta'a, restant éloigné de tout ce qui provoque la colère d'Allah Rabbul Izza, et qui a quitté ce dunya et qui s'apprête à être posé dans sa tombe. Il est dans son kafan, de son linceul, et on va bientôt l'enterrer. Et cet homme est heureux, on avait dit la dernière fois, c'est vous qui avez répondu à la question, pourquoi est-ce qu'on peut dire réellement qu'il est heureux? C'est parce qu'il a déjà reçu la visite de l'ange de la mort qui lui a annoncé la bonne nouvelle qu'Allah Rabbul Izza est satisfait de lui. Et ça fait partie des premières bonnes nouvelles que le mu'min reçoit dans ce dunya. Nous allons continuer, inshallah, l'étude de ces ahadiths sur cette thématique. Et pour clôturer un chapitre, on avait une citation. Il me semble que la dernière fois, on n'a pas eu l'occasion de lire cette citation d'Ibn Abi Dunya, dans lequel il cite que lorsqu'un croyant, on va dire, pense souvent à la mort, et chose qui n'est pas évidente, hein, quand on est aspiré, hein, on va dire, par le rythme de ce dunya. On est dans un cyclone de dunya avec des occupations, des engagements, des responsabilités et en même temps la recherche de son petit bonheur, de son plaisir. Des fois, j'en discutais avec une personne hier et à titre de confidence, quelqu'un qui travaille énormément, qui avoue que ben voilà, des fois après une journée, il est normal que il éprouve, on va dire, la nécessité de prendre du temps pour lui, de profiter un peu de la vie, parce que voilà, c'est comme ça, c'est le rythme de toute personne à notre époque, au 21e siècle, et du coup la place pour Dhikrul Maut, ben elle est quasiment inexistante. On peut dire que les seules fois où on pense à la mort, c'est lorsqu'il y a un mayette, hein, quelqu'un est décédé dans la famille ou parmi nos amis et que nous assistons à la prière mortuaire. C'est là que voilà, on se rend compte que réellement la mort est une réalité, ou que éventuellement on va au maqbara. Mais wallah musta'an, parfois même dans une prière mortuaire à la mosquée, on va trouver 500 personnes présentes. Et ensuite, lorsqu'il s'agit d'accompagner le mayet, le défunt, l'accompagner au cimetière, on en retrouve 20 ou 30 personnes. Ça veut dire que même pour accompagner un frère ou une sœur dans son dernier déplacement de ce dunya vers son akhira, là aussi on n'est pas prêt à consacrer un peu de temps. Ça veut dire vraiment, mes chers frères, on est aspiré, hein, et je parle pour moi en premier, on est aspiré par le rythme de ce dunya, et des fois on oublie même les relations les plus importantes, les relations avec les parents, avec les grands-parents, avec la famille, ainsi de suite. Il faut vraiment qu'on se ressaisisse, parce que si on ne fait que suivre le rythme qui nous est imposé par notre société, même si notre journée de 24 heures, elle est, mashallah, agrémentée par les prières et quelques lectures de Coran, le problème, c'est une question de mentalité et de compréhension du dunya et d'approche de la relation de ibada. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est vraiment la pensée du mu'min qu'il faut construire. Et justement, on va voir dans un hadith, dans un instant, que le Prophète nous a demandé aux personnes, de le sens qui découle du hadith, lorsque vous assistez donc au sakaratul maut, à l'agonie d'une personne, ce qui est important, et je pense que chacun d'entre nous, on a déjà vécu ce genre de situation très éprouvante, situation vraiment déchirante. Une personne qu'on aime qui est en train de mourir, soit sur un lit d'hôpital ou à la maison, ce n'est pas une situation facile. Et la plupart du temps, on voit les gens, ils font quoi? Ils pleurent, d'accord? Ou alors ils sont en train de lire. Au mieux, ils disent, et pour voilà, quoi, pour apporter un peu de bénédiction aux défunts. Mais au-delà du fait de lire le Coran ou alors de, voilà, d'exprimer ses sentiments, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, au-delà de lire le Coran, ce qui est important, c'est de parler au malade, ou tout simplement à la personne qui est dans ses derniers instants, et de le rappeler la bonté, la grandeur, la clémence, la miséricorde et le pardon divin. Et de rappeler à cette personne tout ce qu'elle a fait de bien durant son existence. Là, c'est vraiment pas le moment d'accabler la personne, de dire attention, là, tu vas passer dans le monde, l'au-delà, il y aura peut-être des châtiments, fais attention. Là, de toute façon, ce n'est plus le moment de rajouter des bonnes œuvres, parce que lorsque l'homme est dans l'agonie, le sakaratul maut, qu'on appelle également le rarara, il n'y a plus de bonne action qui peut être greffée dans ce livret d'action. Mais là, c'est vraiment le moment de construire ce qu'on appelle le husnul dhanni billah, la pensée positive en Allah Rabbul Izzah. Mais en fait, il ne faut pas attendre que la personne soit dans ses derniers instants pour le rappeler qu'Allah est clément, miséricordieux et que tu fais quand même de bonnes choses, tu as bien œuvré dans ce dunya. C'est une mentalité que le mu'min se doit de construire, de garder au plus profond de son cœur tout le temps, avoir une pensée positive en son Seigneur, en Allah Azza wa Jal. Parce que celui qui a cette pensée positive à propos d'Allah, ben c'est une personne qui, lorsqu'elle va faire du'a, lorsqu'elle est dans une situation difficile, lorsqu'elle a besoin de quelque chose qui est vital, ben, en invoquant son Seigneur, cette personne aura la conviction, le yaqin, dans ses invocations, dans ses du'as, et il sait qu'Allah est présent, Allah l'entend, et qu'Allah Rabbul Izzah va lui accorder s'il y a un khair, s'il y a un bien pour lui dans cette demande. Alors que la personne qui ne connaît rien de son Seigneur, ben, lorsqu'il y a une épreuve, une difficulté, ben, la personne va se poser immédiatement la question, pourquoi moi? Moi qui suis croyant, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas une personne qui réellement désobéit à Allah Azza wa Jal? Et ainsi de suite. On va se comparer à d'autres personnes dans les situations d'épreuve. Et ça prouve que la pensée du croyant n'est pas correcte. Il n'y a pas cette approche, cette conception de la foi qui doit être présente dans le cœur. Et donc, on a besoin, justement, qu'on parle du dunya, plus on va laisser le dunya pénétrer les cœurs, moins on va développer cette mentalité du croyant et cet apaisement, cette sakina qui doit caractériser le qalb, le cœur du mu'min. Alors justement, ce que Ibn Abi Dunya rapport de Al-Hassan, c'est lorsque le serviteur pense régulièrement à la mort, il y a trois choses. Enfin, on avait déjà cité deux l'autre fois, il restait là, le dunya n'aura plus aucune valeur pour lui. C'est-à-dire, autant une personne peut avoir des attentes concernant sa carrière professionnelle, concernant les biens immobiliers qu'il entend de construire ou les projets dans lesquels il investit, mais à partir du moment où la personne pensera régulièrement à la mort, ce dunya deviendra sarir jiddan, deviendra presque sans intérêt pour ce mu'min, pour cette personne. Et on peut se dire, mais comment est-ce que c'est possible qu'une personne se désintéresse totalement des biens de ce monde alors que nous y vivons? Nous sommes en plein dans ce dunya, et lorsque les fins du mois sont difficiles, on ressent clairement qu'il y a un besoin et qu'on aurait aimé avoir plus. C'est-à-dire que comment se soustraire à une réalité qui nous entoure? C'est la grande question. Comment se soustraire à une réalité qui fait partie de notre quotidien? Mais c'est justement de réaliser que cette réalité, ce n'est qu'une apparence, zinatul hayati dunya, et que nous avons un autre rendez-vous avec notre Seigneur, et que ce monde n'est qu'un lieu de passage. Et ce qu'on avait vu la dernière fois, toujours avec Ibn Abi Dunya, c'est justement, histoire de rappeler les deux premières manfa'a, les deux premiers apports d'une pensée permanente concernant la mort, c'est la personne éprouvera moins de plaisir à profiter des biens de ce monde, même si on vit dans une situation de bonheur licite, bien sûr, mais la personne ne se laissera pas aller totalement au plaisir de ce dunya. La personne restera modérée. Et c'est ce qui est important, de rester modéré dans chaque situation. Et surtout, al-hasad, la personne n'éprouvera plus aucune jalousie envers son prochain. Et Dieu seul sait si la jalousie n'est pas une maladie spirituelle qui est malheureusement envahissante et qui est la cause de beaucoup de problèmes, beaucoup de déviances, déjà dans le aqidah, dans les croyances, parce que la personne qui éprouve de la jalousie, petite parenthèse, c'est quelqu'un qui ne croit pas réellement au destin. C'est quelqu'un qui ne fait pas confiance en la justice d'Allah Rabbul Izzah qui a accordé la subsistance. à chacun. D'accord? Je vous donnerai un exemple. Hein. J'ai un frère qui ouvre un restaurant, ou alors quelqu'un qui ouvre un commerce, ou machallah, quelqu'un qui se marie, ou qui a une voiture, ainsi de suite. Ben, la personne qui éprouve dans son cœur, qui ressent, hein, ne serait-ce qu'une petite douleur, ou une frustration, ou une colère, ce serait la pire des choses, une colère contre cette personne qui bénéficie de ce bien. En fait, ça traduit directement l'absence de confiance en Allah, la faiblesse de sa foi concernant le taqdir, et ça prouve également que la personne n'est pas satisfaite du taqsim al-rizq, de ce qu'Allah a distribué à ses créatures. Ça veut dire que ça fait remonter des gros manquements sur le plan spirituel. Et je le dis, je ne le dirai jamais assez, nous avons, Wallah Musta'an, développé un culte de l'apparence religieuse. L'apparence religieuse avec tout ce qui est bonnes actions et tenues vestimentaires islamiques, ce qui est très correct, tout ça, mashallah. Mais très souvent, on va cautionner, ou alors on va plutôt oublier nos manquements dans les bases de la foi en se contentant d'une pratique qui est parfois ostentatoire ou alors qui est très présente, et on va se dire que la foi, elle est là. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit aux bédouins, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Ismaïl, tu complètes le verset, qul lam tu'minu walakin qulu. Ismaïl, walakin qulu aslamna. Et en aqida, les savants, même si ce n'est pas le sujet, aslamna, barakallahu fi. Le son de Paris est venu un petit peu après. C'est normal que ça prenne un peu de temps. En aqida, les savants, même si ce n'est pas le sujet, c'est une thématique qui est très longue à développer, les savants ils considèrent qu'il y a islam, iman, et au-dessus, c'est ihsan. Il y a la base de la foi, et quand on parle de al-iman, c'est vraiment que la foi a pénétré le cœur, et c'est ce que le prophète alayhi salat wa sallam avait dit aux bédouins, que la foi n'a pas réellement pénétré vos cœurs, et ça a été confirmé, ça a été révélé par Allah Rabbul Izzah. Ce qui veut bien dire que des fois nous avons une impression de présence de foi, et nous nous contentons, hein, d'une certaine façon, de notre pratique religieuse, mais dans le fond, il nous manque des bases. Et vous savez, c'est vraiment quand on est face à l'adversité, à des situations d'épreuve, que nous voyons le plus profond, ce qui est au plus profond de notre cœur. Ou alors, c'est dans des situations où on a affaire à des personnes qui ont des bienfaits, ou des personnes qui nous veulent du tort, qui nous veulent du mal, et ainsi de suite. C'est là que nous voyons, est-ce que nous avons confiance en Allah? Est-ce que nous croyons vraiment en Allah? Parce que se prosterner et faire des génuflexions, at-tahiyat, du'a qunut, et ainsi de suite, c'est très bien. Mais maintenant, quand il y a une situation qui me touche moi personnellement, et là j'oublie totalement mon Seigneur pour aller vers des intermédiaires ou pour essayer de trouver d'autres pistes ou d'autres solutions ou décrypter la situation par moi-même sans jamais me référer à mon Seigneur en levant les mains, en plaçant confiance en lui, ça veut dire que nous avons une pratique qui est réellement externe et qui n'est pas vraiment rentrée dans nos cœurs, d'où l'importance de développer al-iman billah, d'où l'importance de développer la foi en les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ça rejoint ce qu'on a dit, le husnu dhanni billah, une pensée positive en notre Seigneur ne peut trouver sa place dans notre cœur qu'à partir du moment où on connaît qui est Allah. Vous savez, je n'arrête pas, sur un plan personnel, de remettre en cause l'enseignement que nous donnons nous-mêmes aux enfants dans les madaris, dans les makatib. Nous limitons très souvent l'enseignement de la religion à la jurisprudence, à la pratique, ce qui est halal et ce qui est haram. La jurisprudence, comment bien prier, bien faire son ramadan, son hajj, donner sa zakat, ainsi de suite. Et également, qu'est-ce qui est licite? C'est normal, ça fait partie de la pratique religieuse, mais ce qu'il nous manque réellement est ce que chaque parent, hein, on n'a pas besoin d'être un alim, un fundi ou un savant pour le faire, chaque parent se doit de rappeler et d'enseigner à ses enfants, et là je le répète, avec hub, avec amour, compassion, avec sincérité, enseigner à nos enfants, transmettre l'amour d'Allah, rappeler aux enfants qui est Allah Azza wa Jal, Pourquoi est-ce que nous l'adorons? Pourquoi est-ce que nous lui sommes, subhanallah, redevables de tout? Et pourquoi est-ce qu'il est important de se rappeler tout le temps qu'Allah nous voit et qu'Allah nous observe et que nous ne devons jamais nous mettre dans une situation où Allah serait mécontent de nous? C'est la base de la tarbiyah, de l'éducation, parce qu'on ne peut pas surveiller nos enfants tout le temps. On peut les surveiller quand ils sont petits, quand ils seront au collège ou au lycée. Ben, ce sont des situations qui ne nous seront plus accessibles. Mais à partir du moment où on a fait rentrer l'amour d'Allah dans le cœur de nos enfants, d'où le fameux Hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, ben c'est là que l'enfant va grandir avec l'amour de Dieu et vraiment transmettre l'amour d'Allah aux enfants. C'est essentiel, en plus de la jurisprudence. Donc, le chapitre que nous devons voir ce soir, c'est « Ma yu'inu ala dhikril maut ». Et comme j'ai... Alors, je vois les personnes qui sont en ligne... Mashallah, on a des arabophones, alhamdulillah. Ismail, « Ma yu'inu ». Yu'inu, même si ce n'est pas un dars de langue arabe, on a quoi comme verbe? Ma yu'inu ala dhikri al-maut. Dans yu'inu, on a peut-être une racine qu'on connaît, c'est aoun. Al-aoun, c'est l'aide. A'ana, absolument, a'ana yu'inu. Et dans, reste en ligne, Ismaël, et dans quel verset je retrouve cette racine, a'ana yu'inu, ou alors développée dans une autre forme? C'est lorsque nous lisons وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Donc, وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ أَيْ طَلَبُ الْعَوْنُ. Nous demandons l'aide de notre Seigneur. مَا يُعِينُ عَلَى ذِكْرِ الْمَوْتِ. C'était une petite précision pour la beauté de la langue. مَا يُعِينُ عَلَى ذِكْرِ الْمَوْتِ. Ce qui aide le croyant à penser à la mort. On a dit tout à l'heure qu'il est important que régulièrement, chaque jour, à un moment de la journée, d'accord, on pense à ce retour vers Allah Azza wa Jal. On ne doit pas être obsédé non plus par la mort. Hein. Il ne faut pas non plus, dès le matin, qu'on se réveille, voilà, et sans arrêt, on pense à la mort. Non, il y a toujours un juste milieu. Mais vous savez, déjà avant de se coucher le soir, vous savez que quand on se couche, il y a des chances qu'on ne se réveille pas. Il y a des gens qui meurent dans leur sommeil. Et ce n'est pas pour rien si, avant de dormir, on dit « Allahumma bismika amut wa ahya ». Et Amoutou, c'est vraiment je meurs. Parce que quand une personne dort, son âme son âme sort de son corps littéralement, d'une façon qu'Allah seul connaît, Allah seul maîtrise, et l'âme retourne au moment où la personne se réveille, d'où le doua. Alhamdulillah, il a dit Ahyana. Louange à Allah qui nous a redonné la vie, Ba'adama Matana, après qu'il nous l'ait reprise. Donc, la question. Comment est-ce que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on vit dans un monde, subhanallah, on est pris hein, jusqu'au cou par les besoins et les nécessités de ce dunya, comment penser à la fin de ce dunya et penser à la mort? Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, nous donne une piste, une action, ou quelques actions que le mu'min peut faire et qui lui permettra de penser à la mort. Abi Huraira radiallahu anhu qala alayhi salatu wassalam zurul qubura fa innaha tudhakkirul maut. Zurul qubura fa innaha tudhakkirul maut. Ô musulmans, allez au maqbara, au cimetière. Allez rendre visite à vos morts, car cela vous rappellera la mort. Hadith rapporté par Imam Muslim. Donc, une solution concrète et qui est à notre portée, et mashallah, à La Réunion, on a, alhamdoulilah, dans toutes les villes, cimetière musulman qui est accessible et qui est bien entretenu. Et c'est un rappel pour nous tous, moi en premier, allez rendre visite aux défunts, c'est une action qui est vertueuse. Déjà, on va faire doua, salam alaykum, ya al-qubur. Ce sera profitable, cette visite, pour les amouates, les défunts. On fera doua pour eux. Mais au-delà du profit que cela va apporter aux mayettes, et au-delà du fait que ça fait qu'il y a un petit réconfort sur le plan sentimental et d'aller sur la tombe de ses parents, de ses grands-parents, ça nous apporte quelque chose. Mais au-delà de ça, c'est une situation qui permet aux mu'mines de penser à la mort. La première information que notre prophète alayhi salat wa salam nous donne, c'est fa innaha tudhakkirul maut. Ça permet aux croyants de penser à la mort. Et ça rejoint ce qu'on avait expliqué il y a quelque temps, que kafabil mauti, le simple fait de voir une personne qui est en train de mourir, ou le simple fait d'enterrer quelqu'un parmi nos proches ou nos amis, c'est le plus grand des mauvais vivants, c'est le plus grand des rappels. Et maintenant, on n'a pas besoin à chaque fois de, de voir des personnes mourir, hein, pour que on pense à la mort. Aller au maqbara, aller au cimetière, c'est une action qui nous permet de penser à la mort. On continue, on va dans Ibn Majah, un des grands livres de hadith, et on a un hadith d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, de lequel le prophète, alayhi salat wa salam, nous dit « Kuntu nuhitukma an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tuzahidu fi dunya wa tudhakiru l'akhira. » Le prophète, alayhi salat wa salam, rappelle aux sahaba que « Kuntu nuhitukum » au début, je vous interdisais de rendre visite aux défunts, d'aller au cimetière. Alors, on ne va pas rentrer dans trop de commentaires des hadiths, mais les savants disent que au début de l'islam, c'était chose interdite parce que, dans l'époque de l'ignorance, ben, les Arabes avaient l'habitude de commettre des actions en rapport avec le shirk, avec les mayettes, avec les défunts. Et c'est pour éviter une déviance, vers le shirk, qu'au début, aller au cimetière, c'était interdit. Mais le prophète, alayhi salat wa sallam, a ensuite autorisé les sahaba d'aller rendre visite à leur mayette, leur défunt, et le prophète l'a même encouragé. Parce que le prophète dit « Fazuruha », nous avons un ordre, l'impératif, qui incite, donc c'est une incitation pour le mu'min à visiter les tombes. Et le prophète, alayhi salat wa sallam, avait dit dans le premier texte « Ça vous rappelle l'au-delà ». Et là, on a le texte d'Ibn Majah « Fa'innaha tuzahidu fi dunya ». Ça vous permettra de relativiser votre vie de ce dunya et d'y attacher beaucoup moins d'importance. Et le terme « az-zuhdu fi dunya », c'est une personne qui vit dans ce monde, mais dont le cœur s'est détaché de ce dunya. C'est une personne qui vit avec une famille, avec des enfants, avec un travail, et ainsi de suite. Ce n'est pas celui qui s'isole totalement, hein, celui qui va s'isoler dans une montagne ou autre chose, peu importe l'endroit, et qui se coupe de la société et qui se coupe totalement du dunya, ce n'est pas quelqu'un qui est très intéressant sur le plan spirituel. Parce que cette personne, bah, elle développe peut-être son lien avec Allah Azza wa Jal, mais elle se prive en même temps de certaines bonnes actions qui sont en rapport avec les relations ma'al mujtama, avec les gens de façon générale. Quand on parle de zuhd fi dunya, parce qu'il n'y a rien d'extrême dans l'islam. Celui qui délaisse totalement les biens de ce monde, je le répète, pour s'isoler, c'est une personne qui n'est pas en conformité avec les pratiques de notre prophète alayhi salat wa sallam. De quoi on parle quand on cite le zuhd fi dunya? Je le répète, c'est quelqu'un qui vit parmi nous, qui a une situation professionnelle. C'est une personne qui a une vie familiale, qui a une voiture, qui a une maison, qui a tout ça. Mais la personne se contente des nécessités. Et son cœur ne s'attache jamais au bien de ce monde et son cœur ne développera pas d'attente supplémentaire concernant les biens de ce dunya. Si Allah lui prédestine un peu plus de bienfaits jour après jour, il remercie son Seigneur et il donne le droit aux masakin, aux personnes qui sont dans la nécessité, il donne le monde et il essaie de donner un maximum. Et si Allah décide de reprendre une partie de ses biens, cette personne ne sera aucunement affectée parce que son cœur n'est pas à la base attaché aux biens de ce monde. Donc justement, le prophète alayhi salat wa salam nous dit d'aller au maqbara, au cimetière, de rendre visite aux défunts, car cela nous permettra de relativiser et de mieux cerner, de mieux comprendre, de trouver l'équilibre entre les biens de ce monde et l'au-delà. Du coup, le cœur ne s'attachera pas profondément aux biens de ce monde, parce que la réalité, c'est quoi? C'est At-Turab. Le prophète, alayhi salat wa salam, nous a dit qu'il y a deux estomacs qui ne seront jamais réellement remplis. C'est, après, en créole, on a une autre expression, c'est le ventre n'est jamais plein. D'accord? Il y a deux ventres qui ne se remplissent jamais. C'est une personne qui aime la connaissance religieuse. Plus la personne va apprendre, plus, mashallah, elle aura encore plus soif de talabul ilm, d'apprentissage et de compréhension des versets du Coran, des hadiths. Et l'autre cas, ce qui est problématique, c'est la personne qui aime les biens de ce monde, parce qu'à partir du moment où on rentre dans cette spirale infernale de hubbud dunya, le hubbud dunya laissera place à la cupidité. La personne en fera son objectif essentiel, principal, quitte à repousser les limites de la charia, à mettre un pied, puis deux pieds, puis à rentrer totalement dans le haram, parce que son cœur est déjà accaparé par les biens de ce monde. Donc, aller au Maqbara, ça permet aux croyants de se détacher jour après jour de ce dunya. Maintenant, si on va une fois par an ou deux fois par an, ben, on ne trouvera pas réellement l'effet. Ce qui serait bien, c'est d'aller souvent. Maintenant, il n'y a pas un rythme, hein. C'est pas qu'on y va tous les vendredis ou on n'a pas instauré de bid'a ou d'innovation non plus, bien sûr, mais y aller dès que c'est possible. En plus, et bon, là, je ramène un peu le discours au centre-ville de Saint-Denis. Alhamdoulilah, on a la possibilité d'avoir, on a un parking, la possibilité de se garer pour aller au Maqbara. Ce sont des choses qui nous sont accessibles. Hada. Troisième texte, on reste dans cette thématique. On a maintenant un hadith qui est rapporté, un hadith de Anas bin Malik, radiallahu anhu, marfou'an. Alors, juste pour la petite histoire, je ne sais pas comment ça se traduit en français. Quand on a un hadith qu'en arabe, on dit marfou'an. Pour ceux qui lisent les textes en arabe, marfou'an, c'est le sahaba qui nous explique quelque chose, mais il le dit avec ses mots par rapport à un discours qu'il a entendu du prophète alayhi salat wa salam. Des fois, les savants parlent d'un sahaba qui a apporté quelque chose, dit que وَهَذَا لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ, et que cette citation du sahaba est considérée comme marfou', comme étant relatée du prophète alayhi salat wa salam. Donc on reprend hadith d'Anas bin Malik, on a le même début de hadith où le prophète alayhi salat wa salam incite le croyant à aller au cimetière et le prophète salam nous rapporte quelque chose d'autre, fa innaha turiqul qalb, aller rendre visite aux défunts attendrit le cœur, wa tudmi'ul 'ayn, et permet aux yeux, ben, il permet aux mu'mines de pleurer, de laisser couler quelques larmes, parce que à notre époque, pourquoi c'est important de le souligner, nous vivons une époque où les cœurs sont durs, Allah Musta'an, et les yeux sont complètement asséchés. Il n'y a plus de larmes qui coulent, il n'y a plus beaucoup de compassion, on n'a plus d'empathie, on n'a plus de sentiments, parce que on est justement, plus on s'investit de ce dunya, ben le cœur s'endurcit. Et si en plus on a des péchés qui se greffent à ce cœur, un cœur qui devient noir, ça fait que le mu'min, Allah Musta'an, peut avoir, je le répète, une apparence très religieuse, mais à avoir un cœur complètement dénué de crainte et d'amour d'Allah Rabbul Izzah, et dénué totalement d'amour et de compassion pour les créatures d'Allah Azza wa Jal. Ce qui est difficile spirituellement, c'est qu'une personne n'arrive pas à pleurer quand elle fait des doigts. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on fait doigts, on doit pleurer, autrement on est mauvais musulman. Non, ce n'est pas le discours. Mais il faudrait que des fois, parfois, on a un état spirituel, on va dire une poussée de spiritualité qui fait que quand on invoque notre Seigneur, et on doit sentir le cœur bouger, trembler, s'attendrir. Et plus encore, lorsque nous relatons nos péchés à Allah Azza wa Jal, parce que il est important de demander taouba tout le temps. Bien sûr, ça c'est la base même de la relation du croyant avec son Seigneur. Le prophète ne se couchait jamais, il ne laissait jamais une journée passer sans 70, ou dans certaines versions, sans istighfar, demande de pardon à Allah Azza wa Jal. Et ça c'est l'homme parfait, hein, celui qui a été choisi par Allah Azza wa Jal et qui ne désobéissait jamais à son Seigneur. Que dire de nous? La demande de pardon fait partie de la vie du croyant, et cette demande de pardon doit être accompagnée de confidence avec notre Seigneur. Lorsqu'on demande pardon pour nos péchés, nous devons en même temps citer et dire à Allah, et Allah sait bien sûr notre état spirituel, dire à Allah Azza wa Jal, Ya Rab, je t'ai désobéi, j'ai accompli aujourd'hui tel péché, j'ai commis telle erreur, j'ai dépassé les limites par rapport à telle chose. Et le fait de parler, d'énumérer, on va dire, ces péchés de la journée, théoriquement, ça doit faire naître en nous des remords. Et si ces remords naissent d'un cœur qui aime Allah et qui connaît la grandeur d'Allah, qui a étudié un peu les noms d'Allah Azza wa Jal, ben automatiquement le cœur s'emballe et il y aura des larmes qui vont couler, et ça c'est une excellente chose, car parmi les personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, le jour de Qiyamah, Allahumma ja'alna minhum rajulun dhakara Allah khalian fa fadat 'ayna, un homme qui pense à Allah seul, c'est-à-dire de l'obscurité de la nuit, avec la plus grande sincérité, sans que personne ne le voie, sans que personne ne l'entende, et que cette personne pense à son Seigneur, pense à ses péchés, et que la personne se met à pleurer. Ça, c'est vraiment Hudurul qalbi. Et c'est vraiment wujudul imani. Ça, c'est vraiment une preuve de présence de cœur. Et c'est une preuve de présence de foi réelle dans le cœur. Et comme on disait tout à l'heure par rapport à ce hadith, qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons plus à pleurer? Des fois même, Allah musta'an, des fois même, on peut être devant la Kaaba, qu'Allah nous y amène bientôt, Inch'Allah, qu'Allah purifie Ardul Haramain al-Sharifain de cette maladie et la Ummah dans son intégralité. Des fois, on est devant la Kaaba et on a du mal à trouver la concentration, la dévotion, on pense à autre chose et on n'arrive pas à pleurer. Il n'y a rien de plus déchirant que d'être dans l'endroit le plus pur au monde et de voir autour de nous des gens qui, subhanallah, pleurent et implorent Allah et demandent pardon, et que nous avons les yeux secs, la joue qui reste sèche et le cœur qui reste froid. C'est parce que le cœur est trop dur. Le cœur est trop dur, le cœur est dénué d'amour d'Allah et le cœur a cette carapace. Cette carapace, ce qui rend le cœur imperméable, ce sont ces péchés, ces points noirs qui sont greffés jour après jour et qui rendent le cœur totalement insensible au rappel. Et le cœur ne profite pas, il n'absorbe pas la rahma, la clémence qui descend sur la Kaaba ou les clémences qui descendent dans les périodes importantes, et le cœur ne s'imprègne pas du contenu du Coran. Ça, c'est vraiment une situation difficile. Et comment solutionner ce problème? C'est demander beaucoup istighfar, bien sûr, c'est arrêter ses péchés, arrêter les péchés, énumérer ses erreurs, rappeler à notre Seigneur qu'on est faible et qu'on a besoin de son aide. Et entre autres, parmi ces actions, c'est justement ce que notre prophète alayhi salatu wassalam nous demande de faire, c'est aller au cimetière, aller au maqbara, au qabrastan, comme on dit ici chez nous, et rendre visite aux défunts. Ça permet aux mu'min de relativiser et son cœur va s'attendrir. Parce que la fréquentation des personnes aisées, des personnes qui ont de l'orgueil, de la fierté dans leur cœur, ça durcit le cœur. Alors que fréquenter des gens qui sont pauvres, qui sont dans la nécessité, des gens qui sont éprouvés, et plus encore des personnes qui ont quitté ce dunya, être dans un endroit où il n'y a pas de bruit et où personne ne parle, et il n'y a personne qui n'appartient encore à notre alam, à notre monde, à nous, c'est une situation qui permet au cœur de s'attendrir, de relâcher un peu et de peut-être de trouver quelque chose qu'on n'a pas. Et ça permet aux yeux également de se ressourcer en larmes et de trouver cette bonne action qui est de pleurer par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal. Et un dernier texte concernant la visite des maqbaras, des cimetières, le prophète dit également, là on a un hadith de Buraïda radiallahu anhu, et que le prophète dit que cette visite augmentera, cette visite apportera beaucoup de bien aux croyants. Cette visite, le fait de rendre visite aux défunts, apportera beaucoup de bien aux croyants. Donc nous avons parmi les fawaïd, ça nous rappelle la mort, ce qui est évident. Ça permet aux mu'mines de se détacher progressivement des biens de ce monde. Ça attendrit le cœur. Ça permet aux mu'mines de pleurer quand il fera doua ou quand il pensera à son Seigneur. Et cela lui apportera un bien réel. Donc c'est un rappel que je fais pour moi, premier, pour nous tous. Essayons de faire de cette action, on va dire, un rituel. Hein. Si c'est pas au quotidien, mais au moins une ou deux fois par semaine, d'aller rendre visite aux défunts. Et c'est pas uniquement aller sur la tombe de quelqu'un qu'on connaît ou d'un membre de la famille. Parce qu'une personne peut se... Il est possible que quelqu'un n'ait perdu aucun proche, c'est possible, et ne trouve aucun intérêt à aller au maqbara, au cimetière. Non, c'est d'y aller pour l'ensemble des mu'mines et des mu'minas qui sont enterrés. On va clôturer avec... un hadith d'Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu, de lequel le prophète alayhi salat wa sallam donne un autre conseil, warsilil mauta. Le prophète donne ce conseil de, si on a la possibilité parfois de donner le bain mortuaire, d'aider ou d'assister des personnes qui donnent le bain mortuaire, fa inna mu'alijat jasadin khawin maw'izatun balighatun. C'est très beau ça, que le fait d'avoir en face de nous, de toucher, de manipuler un corps qui n'a plus de vie, c'est un rappel qui est profond, un rappel qui est puissant. le fait de donner le bain mortuaire. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est très réglementé, mais de façon générale, ne pas hésiter. Quand c'est quelqu'un de la famille, il y a parfois des gens qui ont des réticences, qui ne veulent pas voir un proche dans une telle situation de, on va dire, de vulnérabilité, parce que ça peut chasser des souvenirs. Une fois, je discutais avec, une parenthèse, avec un grand bonhomme, hein, il a la cinquantaine, et son père était décédé, et il m'a dit que non, il va pas assister au bain mortuaire. Je dis, ben, c'est ton papa, tu le regretteras toute ta vie. Il m'a dit que non, je veux garder en mémoire un père fort, un papa protecteur, présent, et ne pas le voir à la merci des gens. Et mais c'est exactement ce qu'il faut, en fait. C'est que les yeux se sont imprégnés, les oreilles et les souvenirs, ben, ils ont gardé en mémoire une personne qui était, mashallah, présente, active, ainsi de suite. Et là, du coup, et on a besoin parfois de cet électrochoc de voir la même personne maintenant qui est à la merci de tous, et qu'on nous qallibuhu, et qu'on le tourne, on le retourne, on le nettoie, on lui donne son bain, et ainsi de suite, et qu'on se rende compte que ben, un jour, ce sera moi. Ce sera moi qui sera sur cette table, et d'autres personnes me donneront le bain mortuaire, et Allah seul sait quelle sera ma situation à cet instant. Qu'Allah Rabbul Izza nous donne la possibilité de comprendre ces quelques textes et quelques paroles. On peut dire qu'Allah ait pitié de nous, parce que notre situation n'est pas très confortable sur le plan spirituel. Hein, si on analyse le temps que nous consacrons pour notre religion chaque jour, à part nos salats, qu'on fait là aussi à un mode de ultra rapide, avec des toutes petites sourates qu'on lit, et que voilà, c'est juste, c'est parfois une obligation dont on s'acquitte, hein, plutôt que d'un rendez-vous qu'on attend avec impatience avec notre Seigneur, Allah Musta'an. Si on enlève les salats, quel est notre lien avec Allah Azza wa Jal? Ben, il n'y a plus grand chose. Donc qu'Allah ait pitié de nous, qu'Allah nous garde sur le droit chemin, et qu'Allah nous permet de développer les qualités des croyants au plus profond de notre cœur, et qu'Allah enlève l'amour de ce dunya, et qu'Allah débarrasse notre cœur de ces points noirs qui font obstacle entre nous et son contentement. Ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.